Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Je jouis sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Ô saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, bien, chers amis, juste une petite note pour que tous ceux qui écoutent les différentes conférences que je mets sur mon site internet soient au courant pour répondre en même temps à certaines questions. Donc pour les prochaines retraites, je suis plein pour la retraite de Pâques. Par contre, j'ai encore de la place pour les exercices saint-ignace prêchés donc dans l'Aveyron, enfin tout proche d'ici, dans un gîte que je loue. Il y a la place pour la retraite du 27 mai au 1er juin, la retraite du 23 au 28 septembre et pour la retraite du 14 au 19 octobre. Voilà, nous avançons dans ce grand traité des Verbo Incarnato, sur le Verbe incarné. Nous en sommes arrivés à la question numéro 38, la question sur le baptême de Saint Jean-Baptiste. Donc Saint Thomas d'Aquin va faire la différence, bien sûr, entre le baptême de Saint Jean-Baptiste et le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Le baptême de Saint Jean-Baptiste étant comme une préparation au baptême au baptême sacramentel. Le baptême de Saint Jean-Baptiste, nous allons voir ça avec Saint Thomas, n'est pas un sacrement, mais un sacramental. Alors, voyons un petit peu cette question 38, donc le baptême de Jean. D'abord, se pose Saint Thomas d'Aquin, convenait-il à Saint Jean-Baptiste de baptiser? Voilà ce qu'il va répondre. Il va donner quatre raisons pour lesquelles il fallait que Saint Jean-Baptiste baptisât, et d'abord qu'il baptisât notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il fallait donc que le Christ soit baptisé par lui afin de consacrer le baptême d'abord, pour que le baptême soit officiellement institué, on pourrait dire, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui donne l'exemple du baptême. Deuxièmement, il fallait que Jean baptisât également pour manifester le Christ. C'est afin que le Christ soit manifesté, que moi je suis venu baptiser dans l'eau, disait Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste devait baptiser également afin d'accoutumer les hommes par son baptême à celui de Christ. N'oublions pas qu'il fallait que Saint Jean-Baptiste diminue pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse croître. Donc Saint Jean-Baptiste amène les gens à notre Seigneur Jésus-Christ, ensuite s'éclipse littéralement dans l'humilité. Quatrième raison, Saint Jean-Baptiste baptisé afin de pousser les hommes à la pénitence et par là les préparer à recevoir dignement le baptême du Christ. Et Saint Thomas va citer Saint Bède le Vénérable, « On peut comparer le profit que retirent les catéchumènes de l'enseignement de la foi avant leur baptême, ou bien que procurait le baptême de Saint Jean-Baptiste avant celui du Christ. Jean-Baptiste prêchait la pénitence, annonçait le baptême du Christ, attirait à la connaissance de la vérité qui s'est manifestée au monde. Pareillement, les ministres du Christ qui commencent par enseigner éprouvent ensuite les péchés et en promettant la rémission dans le baptême du Christ. Donc de même que le ministre qui est le prêtre amène les fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, le ministre n'amène pas les fidèles à lui-même, mais à notre Seigneur Jésus-Christ, comme Saint Jean-Baptiste n'attirait pas les âmes vers lui-même, mais vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Thomas va répondre dans la première réponse à la première objection. Le baptême de Jean, disait-il, dit-il, et n'était pas par lui-même un sacrement, mais comme une sorte de sacramental disposant au baptême du Christ. Le baptême de Saint Jean-Baptiste visait donc à purifier l'esprit, car il amenait les hommes à la pénitence. C'est comme, si vous voulez, un nettoyage pour amener, avant d'amener le roi dans la maison. Ce baptême de Saint Jean-Baptiste, évidemment, venait de Dieu. C'est absolument évident. Il n'a pas été institué, ce rite n'a pas été institué par les hommes, même si ce n'est qu'un sacramental, mais par Dieu. Parce que c'est Dieu qui, par une révélation intime du Saint-Esprit, avait envoyé Saint Jean-Baptiste baptisé. En revanche, l'effet de ce baptême venait de l'homme, car ce baptême ne produisait rien que l'homme ne puisse faire. Par suite, le baptême de Saint Jean-Baptiste n'est pas venu de Dieu seul, sinon dans la mesure où Dieu agit dans l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le baptême de Saint Jean-Baptiste n'opérait pas ex opere operato, mais ex opere operantis. Ça veut dire, en théologie, on explique comme ça, le baptême de Saint Jean-Baptiste n'étant pas un sacrement, ne donnait pas la grâce par lui-même, mais préparait à la grâce. Et donc, la grâce du bon Dieu allait pénétrer dans l'âme du baptisé par Saint Jean-Baptiste, dans la mesure où cette personne baptisée ouvrait son âme au bon Dieu. Et donc, le rôle de Saint Jean-Baptiste était de s'assurer que l'âme était ouverte pour que Dieu puisse donner des grâces actuelles à cette personne et amener progressivement cette personne qui venait d'être baptisée par le baptême de pénitence, l'amener au baptême sacramental, à savoir le baptême, sacrement de baptême institué par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc on voit bien là toute l'humilité de Saint Jean-Baptiste qui s'éclipse complètement devant notre Seigneur. Donc même, certainement, on va préciser que pour que les hommes s'attachent principalement au Christ, il n'a pas été accordé à Saint Jean-Baptiste de faire des miracles. Parce qu'il ne voulait pas, évidemment, que les gens s'attachent à lui, mais à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le baptême de Saint Jean-Baptiste ne conférait ainsi pas la grâce sanctifiante. C'est ainsi que l'apprenti et l'ouvrier subalterne préparent une matière à recevoir la forme qui lui donnera le maître d'œuvre, que lui donnera le maître d'œuvre. Donc, c'est une préparation. Et Saint Thomas va expliquer avec un paragraphe très beau, voilà ce qu'il dit. Il en résulte que le baptême de Saint Jean-Baptiste ne conférait pas la grâce, mais y préparait seulement. Par trois raisons, de trois manières. D'abord, par l'enseignement de Saint Jean-Baptiste qui amenait les auditeurs à la foi au Christ. Deuxièmement, en accoutumant les hommes au rite du baptême du Christ. Et troisièmement, par la pénitence qui les préparait à recevoir l'effet du baptême du Christ. On voit bien, encore une fois, ici, comment Saint Thomas d'Aquin utilise le système de la tuile, c'est-à-dire la deuxième tuile qui recouvre en partie la première tuile, donc il reprend à chaque fois les mêmes idées, il répète les choses et à chaque fois développe un petit peu plus pour préparer les gens à accepter son enseignement. Il a un enseignement très didactique. Alors, Saint Thomas va se poser une autre question plus secondaire, à savoir, est-ce que d'autres que le Christ devaient-ils recevoir le baptême de Saint Jean-Baptiste? Question 38, toujours, l'article 4. Voilà ce que dit Saint Jean-Baptiste. D'autres que le Christ devaient être baptisés par Saint Jean-Baptiste. Voilà ce que dit donc Saint Thomas. D'autres que le Christ devaient être baptisés par Saint Jean-Baptiste pour deux motifs. D'abord, si le Christ seul avait reçu le baptême de Jean, il n'aurait pas manqué d'homme pour dire que le baptême de Jean reçu par le Christ était supérieur à celui du Christ reçu par les autres. Ensuite, il fallait que les autres soient préparés par le baptême de Jean à recevoir le baptême du Christ. Donc encore une fois, Saint Jean est comme un pont qui amène à notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Thomas se pose également la question de savoir si ce baptême de Saint Jean-Baptiste devait cesser après avoir été reçu par le Christ. Et il va répondre en disant que Saint Jean-Baptiste a continué ensuite de baptiser après avoir baptisé le Christ lui-même. Pourquoi? Parce que, voilà ce que dit Saint Thomas d'Aquin, ces phrases sont très belles. Le baptême de Saint Jean-Baptiste ne devait pas prendre fin après que le Christ eût été baptisé, parce que si Saint Jean-Baptiste avait cessé de baptiser après le baptême du Christ, on aurait pensé que c'était par jalousie ou par colère. Deuxièmement, parce que s'il avait cessé de baptiser au moment où le Christ s'est baptisé, il aurait accru la jalousie de ses disciples. En continuant de baptiser, il envoyait ses auditeurs au Christ. Et enfin, quatrième raison, c'est Saint Bède le Vénérable, l'ombre de la loi ancienne demeurait encore et le précurseur ne devait pas cesser son ministère jusqu'à la manifestation de la vérité. Donc, si vous voulez, tous les sacrements vont être préparés par notre Seigneur Jésus-Christ, mais ne seront, par exemple, on voit très bien avec le sacrement de la Sainte Eucharistie, ne sera institué comme tel qu'à la fin de la vie thérèse de notre Seigneur Jésus-Christ, au Jeudi Saint. Le Christ, une fois baptisé, le baptême de Saint Jean-Baptiste a pris fin, mais pas aussitôt, seulement après l'emprisonnement du précurseur. Lorsqu'il s'est mis en prison par le roi Hérode, eh bien, il va évidemment arrêter de baptiser. Alors, à l'article 6, donc je passe assez vite sur toutes ces parties-là, article 6, ceux qui avaient reçu le baptême de Saint Jean-Baptiste devaient-ils recevoir ensuite le baptême institué par le Christ ? Bien oui, la réponse est positive, tout simplement parce que le sacramental amène au sacrement. Donc ceux qui ont été baptisés par le baptême de pénitence de Saint Jean-Baptiste, il fallait qu'ils soient aussi baptisés par le baptême sacramental du Christ. Pourquoi ? Parce que le baptême de Jean n'imprimait, ne conférait ni la grâce sanctifiante, ni le caractère. Or, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ non seulement donne le caractère d'enfant de Dieu, mais donne aussi la grâce sanctifiante et la grâce sacramentelle. Donc, pour ceux qui, par le baptême de Saint Jean-Baptiste, n'avaient été baptisés que dans l'eau, il ne fallait pas seulement suppléer ce qui manquait en leur donnant l'Esprit Saint par l'imposition des mains, mais il fallait encore les baptiser à nouveau totalement dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Encore une fois, le baptême de Saint Jean-Baptiste n'est qu'une préparation qui amène à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, après cela, donc logiquement, Saint Thomas d'Aquin va maintenant parler, c'est la question 39, du baptême reçu par le Christ lui-même. Bon. Première question évidemment qui se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il fallait que le Christ devait-il être baptisé ? Parce que, évidemment, l'objection, on va dire, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il n'est pas nécessaire qu'il soit baptisé. Et il va citer Saint Ambroise pour répondre. Le Seigneur fut baptisé non pour être purifié, puisqu'il était Dieu, il n'a pas besoin d'être purifié, mais pour purifier les eaux, afin que, purifié par la chair du Christ, qui n'a pas connu le péché, ainsi le pouvoir de baptiser. Donc, ensuite, Saint Thomas va utiliser une autre citation de Saint Grégoire de Nazianze, disant, le Christ fut baptisé afin d'engloutir dans l'eau le vieil Adam tout entier. Donc c'est le passage, en quelque sorte, déjà là, le début du passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, du Dieu de crainte au Dieu d'amour. Et Saint Ambroise précise que la justice, c'est que l'on fasse le premier ce que l'on veut que les autres fassent et qu'on les entraîne par son exemple. Donc Saint notre Seigneur a voulu être baptisé par Saint Jean. Donc la conclusion, si vous voyez, de Saint Thomas d'Aquin, c'est la suivante. Le Christ n'a pas été baptisé pour être purifié, mais au contraire, pour purifier les autres. Parce qu'il est venu non pas pour lui, mais pour les autres. Le Christ, précise Saint Thomas, n'avait pas besoin d'un baptême dans l'esprit. Lui qui, dès le commencement de sa conception, fut rempli de la grâce du Saint-Esprit. Alors, on peut aussi dire que le Christ est venu recevoir le baptême de Saint Jean-Baptiste afin d'approuver officiellement le baptême de Jean en le recevant lui-même. Il est venu au baptême de Saint Jean-Baptiste afin de sanctifier le baptême. Donc on pourrait dire que notre Seigneur Jésus-Christ est venu recevoir le baptême de Saint Jean-Baptiste pour officialiser le baptême sacramentel. Donc le Christ a voulu recevoir le baptême pour nous y inciter par son exemple. Aussi, pour rendre son imitation plus efficace, il a voulu recevoir un baptême dont manifestement il n'avait pas besoin, afin que les hommes s'approchent du baptême dont ils avaient besoin. Hein, pour montrer, en quelque sorte, le chemin à suivre pour les gens qui, eux, avaient besoin du baptême. Dans la question 39, article 3, voilà la question que se pose Saint Thomas, l'âge auquel le Christ reçut le baptême. C'est dans cet article En fait, c'est dans la quatrième objection qu'il y a une phrase très importante de saint Thomas qu'il reprend souvent dans son œuvre théologique. La fin est première dans l'ordre d'intention, mais derrière, dernière dans l'ordre d'exécution. Donc, le but de notre vie, le ciel, est premier dans l'intention, même si dans la pratique, on n'y arrivera qu'en fin de vie. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit la tradition, avait 30 ans pour son baptême. Jésus, lors de ses débuts de vie publique, avait environ 30 ans, nous dit le texte de saint Luc. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé à 30 ans, ceci est tout à fait convenable. Pourquoi ? Parce que pour les Juifs, 30 ans représentait l'âge parfait, l'âge d'adulte. Donc avant 30 ans, il n'était pas normal qu'un Juif enseigne. Enseigna par contre, à partir de 30 ans, il pouvait le faire. Il a été baptisé, donc notre Seigneur a été baptisé pour commencer dès lors à enseigner, à prêcher, ce qui requiert l'âge parfait, qui est l'âge de 30 ans. Ceci nous donne à entendre que le baptême engendre donc des hommes parfaits. Nous devons, ici de saint Paul, aux Éphésiens, nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Et donc saint Thomas, suivant les textes de saint Augustin, explique l'importance du chiffre 30. Notre Seigneur avait 30 ans. Il est le produit de 3 par 10. 3, c'est la foi en la Sainte Trinité, et 10, c'est l'accomplissement des préceptes de la loi. Donc c'est en ces deux points, la Sainte Trinité et l'accomplissement des préceptes de la loi, des 10 commandements de Dieu, donc 3 fois 10 égale 30, et en ce chiffre 30 consiste la perfection donc de la vie chrétienne. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va apporter aux hommes qu'il va baptiser la foi et l'humilité. Pour la foi, parce que la réalité de l'humanité de Christ se manifeste par la croissance de son corps, et pour que cette croissance ne soit pas tenue pour imaginaire, il n'a pas voulu manifester sa sagesse ou sa force avant d'avoir atteint l'âge parfait de son développement physique. Il manifeste aussi l'humilité afin que personne ayant, avant d'avoir atteint l'âge parfait, la prétention de prendre un titre de supérieur, une fonction d'enseignement, ce que je vous ai dit au début de cet article, que personne ne pouvait enseigner officiellement avant d'avoir atteint l'âge parfait, où on passe de la partie de notre vie où nous recevons, pour passer à l'autre partie de la vie, où nous donnons ce que nous avons reçu, parce que personne ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu auparavant. Ensuite, saint Thomas passe rapidement sur certains points plus secondaires, comme le lieu du baptême du Christ. Donc, c'est dans saint Marc qu'il est dit que Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Donc, c'est en traversant le Jourdain que les fils d'Israël entrèrent dans la terre promise. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a tenu à être baptisé au même lieu, pour bien montrer qu'il était celui qu'annonçait déjà l'Ancien Testament. Donc, il convenait que le Christ fut donc ainsi baptisé dans le Jourdain. Vous savez que lors du baptême du Christ, les cieux se sont ouverts. Il y a eu une manifestation de la Sainte Trinité. Au moment où Jésus, après son baptême, était en prière, le ciel s'ouvrit, nous dit saint Luc au chapitre 3. Donc, nous aide à considérer la vertu principale d'où le baptême tient son efficacité, qui est une vertu céleste. C'est pour ça que c'est le ciel qui s'ouvre, pour montrer que désormais, une vertu céleste sanctifierait notre baptême. Deuxièmement, pour nous montrer ce qui agit pour l'efficacité du baptême, c'est la foi de l'Église et du baptisé. C'est pour cela que les baptisés professent la foi avant d'être baptisés, que le baptême est appelé le sacrement de la foi. Et c'est spécialement par le baptême du Christ que nous est ouverte l'entrée du royaume céleste que le péché avait fermé au premier homme. Donc c'est le baptême qui nous rouvre les portes du paradis. Parce que le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Il est important de se rappeler ces choses-là aujourd'hui où Bergoglio détruit toute la théologie traditionnelle sur le baptême en précisant que, d'après lui, tous les hommes pratiquement sont des enfants de Dieu. Donc il joue avec les mots parce que tous les hommes sont en fait des créatures de Dieu, mais tous ne sont pas les enfants de Dieu. Il faut être baptisé pour être enfant de Dieu. Donc un bouddhiste ou un musulman qui n'est pas baptisé dans le, avec le baptême catholique ne peut être enfant de Dieu, bien qu'il soit, bien sûr, créature de Dieu. Donc je passe rapidement sur toutes ces articles qui sont relativement faciles. Donc saint Thomas va ensuite détailler les différentes choses qui apparaissent dans le texte liturgique, dans le texte de l'Écriture sainte. Apparaît sous forme d'une colombe le Saint-Esprit. Bon. Il cite saint Matthieu, c'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint. C'est pourquoi il convenait que le Saint-Esprit descende sur le Christ lors de son baptême. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui reçoivent le baptême du Christ reçoivent le Saint-Esprit, sauf s'ils ne sont pas sincères. C'est évident, quelqu'un qui reçoit le baptême sans avoir la contrition, par exemple, de ses péchés, sans avoir le désir vraiment de changer de vie, de devenir un authentique catholique, eh bien, recevrait sacrilègement le baptême. Alors, on avance. Donc saint Thomas va ensuite détailler pour essayer d'expliquer pourquoi le Saint-Esprit est apparu sur le Christ à son baptême sous la forme d'une colombe. Et donc il a des passages magnifiques, c'est là où on retrouve la grande science exégétique de saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas simplement le plus grand des théologiens de l'Église catholique, c'est aussi un des plus grands exégètes de l'Église catholique. Donc saint Thomas se pose la question de savoir, on est toujours dans le même article, à savoir l'article 6 de la question 39, et saint Thomas donc se pose la question de savoir pourquoi le Saint-Esprit est apparu sur le Christ sous la forme d'une colombe. Il va répondre d'abord en disant que c'est à cause de la disposition requise du baptisé qu'il ne vienne pas sans sincérité. Pourquoi ? Parce que la colombe, tout selon les anciens, était un animal simple, sans ruse ni tromperie. Soyez simples comme des colombes, nous dit notre Seigneur. Et ensuite, il y a un beau texte que je vais vous lire en entier de saint Thomas qui explique justement les raisons de ce choix de la colombe. Voilà ce qu'il dit. Pour symboliser les sept dons du Saint-Esprit, par les caractéristiques de la colombe, donc justement, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu l'intervention de cette colombe qui représente le Saint-Esprit. Elle niche près des cours d'eau. Et dès qu'elle voit l'épervier, elle plonge et s'échappe. Et cela se rattache au don de sagesse, par lequel les saints demeurent le long des eaux de la divine écriture et échappent ainsi aux assauts du démon. Deuxièmement, la colombe choisit les meilleurs grains. Cela se rattache au don de science. D'abord la sagesse, puis la science, par lequel les saints choisissent pour leur nourriture les opinions saines. Troisièmement, la colombe nourrit les petits qui lui sont étrangers. Cela se rattache au don de conseil, par lequel les saints nourrissent les hommes qui furent les petits du démon, c'est-à-dire ses imitateurs, par leur enseignement et leur exemple. Puis, le don d'intelligence, parce que la colombe ne déchire pas avec son bec, et donc c'est ce qui nous rattache au don d'intelligence, par lequel les saints ne pervertissent pas les opinions saines en les lacérant, comme font les hérétiques. Vous voyez que saint Thomas part justement de choses toutes simples et monte de ces choses toutes simples jusqu'à la compréhension des dons du Saint-Esprit. Enfin, la colombe n'a pas de fiel, ce qui se rattache au don de piété, par lequel les saints évitent la colère déraisonnable. La colombe fait son nid dans les anfractuosités des rochers, et cela se rattache au don de force. Bon, il finit tous les sept dons du Saint-Esprit, le don de force par lequel les saints font leur nid, c'est-à-dire ils mettent leur refuge et leur espoir dans les plaies et la mort du Christ. Enfin, la colombe gémit au lieu de chanter, cela se rattache au nom de crainte de Dieu, par lequel les saints se plaisent à déplorer leurs péchés. Et on retrouve donc les sept dons du Saint-Esprit. Saint Thomas complète en disant que le Saint-Esprit est apparu sous la forme d'une colombe pour indiquer l'effet propre du baptême, qui est la rémission des péchés, la réconciliation avec Dieu. Pourquoi ? Parce que la colombe est un animal plein de douceur. Donc on retrouve dans la colombe les sept dons du Saint-Esprit que saint Thomas d'Aquin vient d'expliquer. Donc le Saint-Esprit est apparu aussi ainsi sous la forme d'une colombe pour désigner l'effet général du baptême, qui est de reconstruire et construire l'unité de l'Église. Il cite saint Paul, le Christ s'est livré afin de se présenter à lui-même, l'Église toute resplendissante, sans tache ni ride, en la purifiant par le bain d'eau dans la parole de vie. C'est pourquoi, dit saint Thomas, il convenait qu'au baptême, l'Esprit Saint se montrât sous la forme d'une colombe, animal aimable et social. Donc, il cite ensuite saint Augustin, le Seigneur a rendu visible l'Esprit Saint de deux manières, par la colombe sur le Seigneur après son baptême et par le feu sur les disciples réunis. Là nous est montrée la simplicité par la colombe et la ferveur par le feu de l'Esprit Saint, les langues de feu qui vont apparaître sur les apôtres, notre Sainte Vierge Marie, les saintes femmes et les disciples qui étaient là le jour de la Pentecôte. Dans saint Thomas se pose la question, vous voyez, il explique certains détails qui pour nous semblent tout à fait secondaire, pourtant c'est important pour lui. Cette colombe, article 7 de la question 39, cette colombe fut-elle un véritable animal? Il ne convenait pas, répond saint Thomas, que le Fils de Dieu, qui est la vérité du Père, emploie de faux semblants. C'est pourquoi il n'a pas pris un corps irréel, mais un vrai corps. Et parce que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité, lui-même aussi a formé une colombe véritable dans laquelle il apparaîtrait, bien qu'il ne l'ait pas assumé pour l'unir à sa personne. Donc c'est une véritable colombe. Pour ne pas donner l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ nous trompe. Alors, après la colombe, saint Thomas se pose la question de cette voix du Père. Donc il va dire, celui-ci, mon fils bien-aimé, en lui, j'ai mis toutes mes complaisances. Saint Matthieu, chapitre 3. Donc voilà ce qu'explique saint Thomas d'Aquin. Il va citer saint Jérôme. C'est le mystère de la Trinité qui se manifeste. Car le Seigneur, dans sa nature humaine, est baptisé. L'Esprit Saint descend sous l'aspect d'une colombe. Et on entend la voix du Père en témoignage au Fils. C'est pourquoi il convenait que dans ce baptême, le Père se manifeste par sa voix. Donc on voit là intervenir les trois personnes de la Sainte Trinité. Notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne. La colombe, troisième personne, et cette voix qui sort du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toutes mes complaisances, qui représente évidemment la voix du Père, de la première personne de la Sainte Trinité. Alors, saint Thomas, donc dans la dernière partie de la somme, je vous l'ai déjà dit, la dernière partie, pardon, du traité sur sur l'incarnation, on va maintenant suivre la vie du Christ. En étudiant le genre de la vie du Christ, la tentation du Christ, l'enseignement du Christ et les miracles du Christ. Alors, il y a une question très belle, c'est l'article très beau, sur lequel j'ai pu insister. Question 40, article 1. Donc, question 40, le genre de vie du Christ, article 1. Le Christ devait-il mener la vie solitaire ou bien vivre parmi les hommes? Alors, ça, c'est très très beau, je vais vous piquer plus en détail ce magnifique article. Donc, Dieu se fit voir, dit saint Thomas, sur la terre et vécut parmi les hommes. Donc, il a voulu pas simplement mener de temps en temps une vie solitaire. On voit régulièrement notre Seigneur Jésus-Christ qui s'éloigne de la foule pour aller prier dans le désert, mais il est venu se faire voir sur la terre pour vivre parmi les hommes. Pourquoi ? Pour manifester d'abord la vérité. Je suis né, ici de Saint-Jean, et je suis venu dans le monde pour en témoignage à la vérité. Et ensuite, ici de Saint-Luc, il faut aussi que j'aille annoncer le règne de Dieu aux autres cités, car c'est pour cela que j'étais envoyé. Donc notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas rester dans le désert à prier et faire pénitence dans le désert comme un solitaire, mais il va aller aux gens qu'il veut sauver. Pourquoi ? Parce qu'il est venu pour délivrer les hommes de leurs péchés. Le Christ Jésus est venu en ce monde pour sauver les pécheurs. C'est la première épître de saint Paul à Timothée, chapitre 1. Donc, il va citer saint Jean Chrysostome, disant, le Christ aurait pu, en demeurant au même endroit, attirer à lui tous les auditeurs de sa prédication, mais il ne l'a pas fait. Il nous a ainsi donné l'exemple pour que nous allions à la recherche de ceux qui se perdent, comme le pasteur cherche la brebis perdue et le médecin vient auprès du malade. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui fait tout le travail, qui vient vers nous parce que nous sommes incapables d'aller par nous-mêmes à lui. Il est venu afin que nous ayons un accès à lui. Ça, c'est très important. Alors, on voit très bien dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ ces alternances de périodes contemplatives et de périodes actives. Alors, voilà ce que dit saint Thomas. Donc ça, c'est la réponse aux objections, il est splendide. La vie contemplative est meilleure absolument que la vie active, qui ne comporte que des activités corporelles. Mais, attention à cette remarque, la vie active, selon laquelle on livre aux autres par la prédication et l'enseignement ce qu'on a contemplé, est plus parfaite que la vie exclusivement contemplative, puisqu'une telle vie présuppose l'abondance de la contemplation. C'est pourquoi le Christ a choisi une telle vie. Donc en fait, saint Thomas explique que la meilleure des vies, c'est une vie active, mais qui puise sa force dans la vie contemplative. C'est la devise qui descend des dominicains, contemplare, contemplata, alis tradere. Contempler d'abord, ça c'est la vie contemplative, et donner aux autres le fruit de sa contemplation, ça c'est la vie active. Donc en soi la vie contemplative est meilleure, cependant la vie active est plus parfaite que la vie exclusivement contemplative. Et c'est pour ça que le Christ a choisi une vie mixte, à la fois contemplative pour alimenter sa vie active et active pour prêcher l'évangile. Donc le Seigneur, on le voit très bien dans l'évangile à plusieurs reprises, s'écarte parfois des foules. Il le fait, mais pas de façon définitive, il revient toujours vers les foules. On voit dans l'évangile qu'il l'a fait plusieurs fois, pour trois motifs. Bon. D'abord, saint Thomas n'exclut pas la chose pour obtenir un repos physique. Venez à l'écart dans un désert, disait-il aux apôtres, et reposez-vous un peu. Car les gens ne cessaient d'aller et venir, et on n'avait plus le temps de manger. Deuxièmement, le repos physique n'est donné que pour préparer l'âme à se développer davantage. Donc le repos physique va favoriser la prière. On se repose quand on est fatigué, parce que l'homme n'est pas un ange, il a besoin de se reposer pour pouvoir prier. Dans ces jours-là, il cite Saint-Luc, de nouveau chapitre 6, « Notre Seigneur se retira dans la montagne pour prier, et il passait la nuit à prier Dieu. » Donc il le faisait, il agissait ainsi, pour enseigner à éviter la faveur humaine. Saint Jean Chrysostome nous donne la raison. En siégeant non pas dans la ville et sur le forum, mais dans la montagne et la solitude, le Christ nous a enseigné à ne jamais agir par ostentation, à nous éloigner de l'agitation, surtout lorsqu'il faut discuter ce qui est nécessaire au salut. Voyons l'article 2 de la question 40. Le Christ devait-il mener une vie austère? Alors voilà ce que va répondre saint Thomas d'Aquin, c'est une réponse pleine de bon sens. Il était conforme au but de l'incarnation, on vient de l'expliquer, que le Christ ne mène pas une vie solitaire, uniquement contemplative, mais vive parmi les hommes avec une vie active, fruit de sa contemplation. Or, il convient souverainement que celui qui vit parmi d'autres se conforme à leur genre de vie. C'est pourquoi le Christ était souverainement convenable que le Christ fasse comme tout le monde en matière de nourriture et de boisson. Okay. On voit que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu dans le monde pour devenir la lumière du monde et le sel de la terre. Je pense que cette phrase est importante. Le Christ faisait comme tout le monde en matière de nourriture et de boisson. Ceci peut-être pour faire réfléchir un peu nos fidèles parfois qui sont un peu impossibles en matière de nourriture parce qu'ils refusent de faire comme tout le monde. Alors certes, on a besoin de protéger sa santé. Je ne demande pas de manger du poison, une nourriture complètement frelatée, bien sûr que non, mais on voit bien dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ que notre Seigneur se mettait au niveau des gens à qui il parlait. Il faut être équilibré dans ce domaine. C'est là où la sagesse va intervenir. J'ai vu plusieurs cas où des jeunes filles, par exemple, ont dû abandonner leur vocation religieuse à cause de l'éducation qu'elles avaient reçue en famille en matière de nourriture. Elles étaient devenues tellement difficiles en matière de nourriture qu'il n'y a pas un seul couvent qui pouvait les accepter parce qu'elles refusaient de manger la nourriture du couvent. Elle refusait de manger, par exemple, du sucre, elle refusait de manger du pain qui n'était pas un pain parfaitement biologique. Et dans beaucoup de couvents, on vit, on mange ce qu'on nous donne. Hein, ce sont des gens qui vont quêter. Mais les religieuses vont quêter, ou les religieux vont quêter, et ils mangent ce qu'on leur donne. On ne va pas devenir difficile quand on nous donne quelque chose. Quand on nous fait le monde, on ne va pas dire « Ah, moi, je ne veux pas ça, vous me donnez du sucre blanc, je ne veux pas de sucre blanc, je ne mange que du sucre roux, alors reprenez votre sucre blanc, donnez-moi du sucre roux. » On ne dit rien, on remercie, on est bien content d'avoir quelque chose à manger. Il faut faire attention. Encore une fois, il faut du bon sens dans toutes ces choses-là. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'usage des biens qui est coupable, dit saint Thomas, le désir de celui qui en use. Il a, de plus, on voit très bien qu'il ait fait des pénitences, c'est extraordinaire, entre autres, il est resté un moment 40 jours sans manger, il n'a pas poussé son jeûne plus loin que Moïse et Élie, qui avaient aussi jeûné pendant 40 jours, afin que son incarnation ne parût pas quelque chose d'incroyable. Cela convenait au genre de vie selon laquelle on transmet le fruit de sa contemplation, genre de vie qu'il a adopté pour vaquer d'abord à la contemplation et ensuite descendre à l'action publique en vivant avec les autres hommes. Donc la vie active est le fruit de la vie contemplative. En quelque sorte, on peut comparer, c'est une comparaison très moderne, on peut comparer la vie contemplative à la station-service, dans laquelle on fait plein de carburant, dans le réservoir d'essence, le carburant de la voiture, et ensuite on roule pour remplir notre mission en utilisant l'énergie qu'on a emmagasinée à la station-service. Donc la station-service représente la vie contemplative qui permet la vie active, à savoir de faire la route et remplir notre devoir d'État sur la route qui est la nôtre. Alors saint Thomas se pose la question de savoir si le Christ devait vivre en ce monde en étant méprisé ou bien au contraire riche et honoré. La réponse, évidemment, est la suivante. Il convenait que au Christ de mener une vie pauvre en ce monde. Pourquoi ? Parce que cela s'accordait avec l'office de la prédication pour lequel il dit être venu. Donc il faut que les prédicateurs, explique saint Thomas, les prédicateurs de la parole de Dieu, pour se consacrer totalement à la prédication, soient totalement affranchis du souci des affaires séculières. Il va le dire plusieurs fois à ses disciples, ne possédaient ni or ni argent. Et même les apôtres, c'est dans les actes des apôtres, saint Pierre disait, il ne faut pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et donc ils vont élire les diacres pour s'occuper des tâches plus matérielles. Donc de même que notre Seigneur Jésus-Christ a assumé la mort corporelle pour nous conférer la vie spirituelle, de même, il a supporté la pauvreté corporelle pour nous accorder les richesses spirituelles. Donc il va citer saint Paul, 2 Corinthiens chapitre 8, « Vous connaissez la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de nous enrichir par sa pauvreté. » Donc si notre Seigneur Jésus-Christ avait possédé des richesses et demandé de l'argent, on aurait pu attribuer sa prédication à la cupidité. Donc la vertu de la divinité du Christ se montre d'autant mieux que sa pauvreté semblait l'abaisser davantage. Donc il cite, saint Thomas cite le concile d'Éphèse, au début du 5e siècle, il a choisi tout ce qu'il y avait de pauvre et de vil, tout ce qu'il y avait de modeste et d'obscur, pour faire reconnaître que sa divinité avait transformé le monde. C'est pourquoi il a choisi une mère pauvre, une patrie plus pauvre encore, et voici ce que la crèche nous fait comprendre. Donc attention à l'attachement aux richesses. J'étais absolument scandalisé de voir que beaucoup de prêtres, surtout dans l'Église du Vatican II, malheureusement, parfois un peu aussi dans la tradition, littéralement, dans certains cas, exigent presque un espèce de salaire pour les sacrements. Et ça, c'est pas du tout normal, c'est pas du tout l'esprit de l'Église. Les sacrements sont complètement gratuits. Combien de fois on me demande après un baptême ou un mariage, les gens viennent me voir en me disant combien on vous doit ? Mais rien du tout, monsieur. Rien du tout, les sacrements sont gratuits. Vous lui donnez quelque chose, vous donnez quelque chose, ça rentrera dans les pour aider toutes les tous les frais qui sont les miens dans ma vie apostolique. Mais on ne demande rien. On ne demande rien pour un baptême, on ne demande rien pour un mariage, sauf des grosses dépenses qui pour lesquelles on s'était mis d'accord auparavant. Par exemple, c'est évident, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, un mariage à l'île de la Réunion. Bon, ben, j'avais accepté d'y aller, invité par les gens là-bas, mais j'avais demandé est-ce qu'on paye le voyage, je peux pas le payer moi-même. Donc saint Thomas, il donne quelques détails. La surabondance de richesses et la mendicité sont à éviter par ceux qui veulent vivre vertueusement, en tant qu'elles sont des occasions de péché, car l'abondance des péchés, des richesses est une occasion d'orgueil, tandis que la mendicité expose à voler, à mentir ou même à se perjurer. Mais il fait aussi une remarque. Cependant, toute mendicité n'est pas occasion de voler, de se perjurer. C'est pour ça qu'il y a des ordres religieux qui, dans leur constitution, ne vivent que par l'aumône. C'est le cas, par exemple, des franciscains, même des dominicains, ou des ce qu'on appelle les ordres mendiants. Alors, article 4 de la question 40. Le Christ devait-il vivre selon la loi? Alors, saint Thomas va citer saint Matthieu, saint Pietre 5. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Bon, le Christ a accompli la loi, d'abord en ne transgressant aucune de ses prescriptions, ensuite en justifiant par la foi ce que la lettre de la loi ne pouvait pas faire. Donc le Christ a mené une vie entièrement conforme aux préceptes de la loi. Il a voulu vivre conformément à la loi, bon, pour approuver la loi ancienne, il n'a pas voulu, attention, le Christ, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu, il ne faut pas oublier. Donc il a voulu vivre conformément à la loi aussi, pour, en l'observant, la porter en lui-même à sa consommation et à son terme, et se montrer lui-même comme étant la fin assignée à la loi. En même temps, il enlevait aux Juifs un prétexte à le calomnier, et il libérait les hommes de l'esclavage de la loi. Dieu a envoyé son fils né sous la loi pour qu'il rachète ceux qui étaient sujets à la loi, dit saint Paul aux Galates. Donc il donne, saint Thomas explique certaines façons d'agir de notre Seigneur. Donc les préceptes de sanctifier le sabbat n'interdit pas dans l'esprit de notre Seigneur un ouvrage divin, mais simplement un ouvrage humain. Et ce précepte, par exemple, de ne pas travailler pendant le sabbat, pas faire d'action active pendant le sabbat, d'action active, oui, pendant le sabbat, ce précepte n'interdisait pas les œuvres nécessaires au salut, même à celui du corps. Donc, il cite notre Seigneur, chacun de vous ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire, même le jour du sabbat? Lequel d'entre vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne le retire pas le jour du sabbat? Donc ce précepte du sabbat n'interdisait pas les œuvres qui ressortissaient au culte divin. Nous passons maintenant à un autre sujet, la tentation du Christ, les trois tentations du Christ, donc qu'on avait au début du temps du carême. Saint Thomas va se poser la question de savoir s'il était convenable que le Christ fût tenté. Donc voilà sa réponse. Le Christ a voulu être tenté, d'abord pour nous fournir un secours contre la tentation. Donc il n'était pas indigne de notre Rédempteur de vouloir être tenté, lui qui était venu pour être mis à mort. De la sorte, il vaincrait nos tentations par les siennes, comme il a triomphé notre mort par la sienne. Donc c'est un enseignement pour nous expliquer comment nous devons lutter contre la tentation. Deuxièmement, c'est aussi pour notre sauvegarde, afin que personne, si saint soit-il, ne se juge en sécurité à l'abri de toute tentation. Si notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté trois fois par le démon, soyons pas surpris, mais bien chers frères, si vous et moi, nous sommes aussi tentés. Donc, saint Hilaire a fait remarquer que notre Seigneur a été tenté après le baptême, parce que les tentations du diable s'acharnent surtout contre les sanctifiés. Moi, je le dis souvent, au baptême d'adultes, je préviens les adultes que j'ai baptisés, attention, après le baptême, vous aurez sans doute plus de tentations qu'avant, parce que le démon va se venger, il n'aime pas les conversions. saint Thomas cite la parole de l'Ecclésiastique, « Mon fils, si vous entreprenez de servir Dieu, demeurez dans la justice et la crainte et préparez votre âme à la tentation. » Qu'une personne qui veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ sera tentée, aura à lutter contre la tentation. Donc, ainsi, notre Seigneur veut nous donner l'exemple, c'est-à-dire nous apprendre comment vaincre la tentation du diable, et en même temps, il agit ainsi pour nous donner confiance en sa miséricorde. Ici, c'est Paul aux Hébreux, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, il a tenté en toute chose comme il était tenté en toute chose comme nous, à l'exception du péché. Donc, saint Thomas explique que notre Seigneur Jésus-Christ donc, a accepté d'être tenté pour nous enseigner le moyen de lutte contre les tentations. Alors, saint Thomas se pose la question aussi dans l'objection numéro 1, de savoir si les démons connaissaient exactement qui était le Christ. Et voilà ce qu'il répond en citant saint Augustin. Les démons ont connu le Christ dans la mesure où il l'a voulu, non par le fait qu'il ait la vie éternelle, mais par certains effets temporels de sa puissance qui leur faisaient plus ou moins conjecturer qu'il était le Fils de Dieu. Mais d'autre part, voyant en lui des signes de la faiblesse humaine, il n'en était pas sûr. C'est pourquoi le démon a voulu le tenter. Il voulait essayer de savoir qui était cet homme extraordinaire qui faisait des signes aussi prodigieux. Il n'est pas étonnant, citation de Saint-Grégoire le Grand, qu'il ait permis de le conduire sur la montagne à celui qui permettrait aux membres de son corps de le crucifier. Notre Seigneur Jésus-Christ se laisse crucifier. Et donc, puisqu'il se laisse crucifier par les Juifs, c'est pas étonnant qu'il ait laissé le démon le prendre physiquement et le conduire au sommet du temple, au sommet de la montagne. Donc le Christ a bien voulu être tenté par l'ennemi, non par la chair. Il n'y a pas eu de tentation acceptée, bien sûr, par notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est Dieu. Sur le lieu de la tentation, saint Marc explique que Jésus demeurait 40 jours et 40 nuits dans le désert et était tenté par le démon dans le désert. C'est là où il fut tenté. Or, saint Thomas va expliquer un petit peu les occasions de tentation. Il dit qu'il y en a deux sortes. L'une vient de l'homme, par exemple, lorsqu'on s'approche du péché en n'évitant pas les occasions de péché. Une autre sorte d'occasion vient du diable qui jalouse ceux qui s'efforcent de progresser. Donc, il y a des tentations qui viennent de notre propre faiblesse et des tentations qui viennent directement du démon, qui évidemment fait tout pour nous empêcher d'aller au ciel. Le démon sait que la fin de son pouvoir arrivera complètement le jour où le dernier homme en état de grâce montera au ciel. Donc il n'y aura plus d'hommes à ce moment-là sur la terre, ce sera la fin du monde parce que le ciel sera rempli. Alors, saint Thomas va expliquer davantage au moment, à ce niveau-là, à l'article 3 de la question 41, parlant du moment de la tentation. Quand est-ce que le démon l'a tenté? Et saint Thomas fait remarquer qu'il l'a tenté après que notre Seigneur ait jeûné 40 jours et 40 nuits, quand il eut faim. C'est alors que le tentateur s'approcha de lui. Donc, puisque le Christ a jeûné avant la tentation, le Christ nous enseigne ainsi de nous armer par le jeûne contre la tentation, surtout les tentations d'impureté. Le jeûne est l'arme favorite qu'utilisaient les saints pour lutter contre la tentation d'impureté. Donc, notre Seigneur veut aussi nous montrer, nous enseigner, que le démon assaille de ses tentations ceux qui jeûnent comme ceux qui s'adonnent aux bonnes œuvres. Et donc, le jeûne de notre Seigneur fut même suivi de la faim. Il tombe, donc il a eu faim, c'est normal. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait même pas eu faim après 40 jours de jeûne, ses ennemis auraient dit, il n'est pas vraiment homme. Et notre Seigneur Jésus-Christ a donc eu faim, ce qui donna au démon l'audace de l'attaquer. Mais sans vouloir, en même temps, faire des choses encore plus extraordinaires que Moïse et Élie, encore une fois, j'ai déjà expliqué, pour ne pas rendre incroyable son incarnation. Alors, ceci nous enseigne aussi, pour nous prédicateurs, que l'on ne doit pas assumer l'office de la prédication avant d'être purifié et rendu parfait en vertu à l'exemple du Christ. Donc, c'est pourquoi le Christ, aussitôt après son baptême, a adopté une vie austère, afin d'enseigner qu'on ne doit aborder l'office de prêcher aux autres qu'après avoir dompté sa chair. Ici, de saint Paul, je châtie mon corps, je le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même un réprouvé. Oui, toutes ces questions de Saint Thomas d'Aquin sont vraiment toutes très belles. Article 4 de la question 41, du genre et de l'ordre des tentations. Bon. En suivant l'autorité des Saintes Écritures. Donc, Saint Thomas va citer une phrase de Saint Léon. Ces tentations, le Christ les repousse par des textes de la loi, non par sa puissance divine. Par là, il honorerait davantage l'homme et il punissait l'adversaire davantage, puisque l'ennemi du genre humain paraissait vaincu non par Dieu, mais par l'homme. Alors, on passe tout cela. Donc, Saint Thomas a une belle phrase dans le sixième point, la réponse à la sixième objection. Donc, lorsque le démon a conduit notre Seigneur Jésus-Christ sur le temple, au sommet du temple, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Je te donnerai tout cela, ensuite sur la montagne, je te donnerai tout cela si tu m'adores en te prosternant. Et le Christ est irrité et le repoussa en disant « Arrière, Satan !» Afin, dit saint Thomas, que nous sachions à son exemple supporter avec magnanimité les offenses qui nous sont faites, mais par contre ne pas supporter d'entendre offenser Dieu. Alors voyons maintenant, encore un petit peu de temps, sans doute pour faire cette question numéro 42, l'enseignement du Christ. Alors, saint Thomas va se poser la question de savoir si le Christ devait prêcher aux Juifs seulement ou bien aux païens également. Il convenait, dit saint Thomas, que la prédication du Christ par lui-même et par les apôtres fut adressée aux seuls Juifs pour commencer. Ensuite, surtout avec saint Paul, il va envoyer saint Paul prêcher aux païens. On le voit également aussi après la Pentecôte. Jusqu'à la Pentecôte, c'est très clair, notre Seigneur Jésus-Christ ne prêchait qu'en Palestine. Et c'est après l'envoi des apôtres, après donc la fête de la Pentecôte, que les apôtres vont être suffisamment forts pour pouvoir aller prêcher aux païens. Donc au début, ils prêchaient qu'aux seuls juifs, afin de montrer que la venue du Christ accomplissait les promesses faites anciennement aux juifs, mais non aux païens. Deuxièmement, cet ordre nécessaire exigeait que l'enseignement du Christ fût d'abord proposé aux Juifs, qui étaient plus proches de Dieu par leur foi et leur culte monothéiste, pour être ensuite transmis par eux aux païens. Il fallait également enlever aux Juifs un prétexte à la calomnie. Donc c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses apôtres, au moins au début, n'allez pas chez les païens. Il fallait annoncer, dit saint Jérôme, la venue du Messie tout d'abord aux Juifs, pour qu'il n'ait pas une juste excuse en disant qu'ils avaient rejeté notre Seigneur, parce que notre Seigneur avait envoyé ses apôtres auprès des païens et des Samaritains. Enfin, autre raison, parce que le Christ a mérité le pouvoir et la domination sur les païens par la victoire de la croix. Donc on va attendre la victoire de la croix du Vendredi Saint avant de voir l'apostolat fait au milieu païen. Ceci dit, il y a déjà eu, on voit très bien dans l'Évangile, par exemple, des conversions de centurions romains qui n'étaient pas des juifs. Dans sa prédication, c'est une question intéressante, dans sa prédication, question 42, article 2, dans sa prédication, le Christ aurait-il dû éviter de heurter les juifs ? Mon Dieu s'est adressé assez fortement aux juifs, hein, quand il leur dit « race de vipères », sépulcre blanchi par saint Jean-Baptiste qui disait les mêmes termes, et bien il n'a pas dû plaire à tout le monde, hein, ça c'est certain. Moi jamais j'aurais osé utiliser des épithètes pareilles à l'égard de mes fidèles. Donc il avait été prophétisé en Isaïe que le Messie serait une pierre qui fait tomber, la pierre de scandale pour les deux dynasties d'Israël. Donc le salut de la multitude, dit saint Thomas, doit passer avant la paix de quelques individus. C'est pourquoi, quand certains empêchent par leur perversité le salut du grand nombre, il ne faut pas craindre qu'un prédicateur ou un docteur les heurte afin de pourvoir au salut de la multitude. Donc si les gens autour de nous s'opposent à ce que le ministre de Dieu puisse sauver les âmes, eh bien, il faut se battre. Il faut se battre et ne pas hésiter dans un cas de ce genre, d'heurter les gens afin de pouvoir au salut de la multitude. Et ici, Saint Grégoire qui dit que quand le scandale naît de la vérité, il vaut mieux endurer le scandale qu'abandonner la vérité, bien entendu. Donc on doit éviter par contre de scandaliser quiconque pour ne donner à personne, par une action ou une parole déplacée, une occasion de chute. Mais si le scandale naît de la vérité, alors à ce moment-là, il vaut mieux endurer le scandale qu'abandonner la vérité. Alors voyons si le Christ devait enseigner publiquement ou secrètement. Et donc, saint Thomas cite saint Jean, chapitre 18, qui dit bien, en faisant parler notre Seigneur, « Je n'ai rien dit en secret, donc tout fut public. » Est-ce qu'on apporte la lampe pour la mettre sous le boisseau, dit notre Seigneur? Non, on la met justement sur la table pour qu'elle puisse éclairer toute la maison. Donc le Seigneur expliquait la vérité claire et nue à ses disciples, qu'il a transmettée à ceux qui en étaient capables, qui en seraient capables. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ parle en utilisant des paraboles. Et il explique ces paraboles à ses apôtres pour que ceux-ci, à leur tour, puissent les expliquer aux gens du peuple. Bon, et saint Thomas a fait remarquer, ici saint Hilaire, que tout propos du Christ est ténèbre pour les hommes charnels, et sa parole est obscurité pour les incroyants. Mais au contraire, cette parole devient lumière pour ceux qui le suivent. Article 4, le Christ de la question 42, le Christ devait-il enseigner seulement par la parole ou aussi par l'écrit? Donc, saint Thomas répond en disant que le canon des Écritures ne contient aucun livre écrit par le Christ lui-même directement. Alors certes, la Sainte Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais pas par le Christ directement. Donc, il convenait, dit saint Thomas, que le Christ n'ait pas mis par écrit son enseignement. Donc il va expliquer. D'abord à cause de sa dignité. Plus un docteur est éminent, plus le mode de son enseignement doit l'être. C'est pourquoi il convenait au Christ, comme au plus éminent des docteurs, de graver sa doctrine dans le cœur de ses auditeurs. Deuxièmement, à cause de la supériorité de la doctrine du Christ qui ne pouvait s'enfermer dans un texte. Le Christ également n'a rien écrit afin que son enseignement, dit saint Thomas, parvienne à tous. À partir de lui, dans un certain ordre, c'est-à-dire que lui-même instruisait immédiatement ses disciples, les apôtres, qui ensuite ont instruit les autres par leurs paroles et par leurs écrits. Vous voyez comme saint Thomas explique les choses avec des détails qui nourrissent notre âme. Saint Thomas d'Aquin est vraiment un professeur né, ça se voit dans la façon dont il parle. Alors voyons rapidement, on va terminer par ça, je ne sais pas si on aura le temps de terminer cette question, mais la question numéro 43 sur les miracles du Christ maintenant. Alors de Christ, devait-il faire des miracles? Demande saint Thomas d'Aquin, question 43, article 1. Donc le Christ devait confirmer la vérité de son enseignement. Donc il va faire des miracles pour ce motif. Et aussi, Dieu accomplit des miracles pour montrer la présence de Dieu dans l'homme par la grâce du Saint-Esprit. Donc, c'est en quelque sorte un moyen de prouver que ce qu'il dit vient de Dieu et qu'il est Dieu lui-même. Deuxième article de la question 43, donc je donne simplement la moelle de l'article. Le Christ devait-il faire des miracles? Donc saint Thomas cite saint Léon le Grand. Le Christ ayant deux natures, l'une la nature divine brillant par les miracles, l'autre la nature humaine est accablée par les outrages. Cependant, chacune agit en communication avec l'autre parce que la nature humaine est l'instrument de la nature divine et l'action humaine a reçu une vertu de la nature divine. Notre Seigneur Jésus-Christ fait donc tous ses miracles en utilisant sa double nature et la nature humaine et la nature divine. Article 3 de la question 43. À quel moment le Christ a-t-il commencé à faire des miracles? Donc, il va répondre à l'objection qu'on entend très souvent, même dans les milieux de traduction, de gens qui prétendent que notre Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles dans son enfance. Alors qu'en fait, l'Évangile nous dit que son premier miracle fut celui de changer l'eau en vin à Cana de Galilée. C'est en Saint Jean chapitre 2. Ce fut le commencement, le premier des miracles que Jésus fit à Cana de Galilée. Donc, tous les miracles de l'enfance, qu'on appelle le proto-évangile de Saint Jacques, tous ces miracles sont faux, n'existent pas. Donc, notre Seigneur ne devait pas faire de miracles avant d'avoir commencé à enseigner, il ne devait pas enseigner avant d'être parvenu à l'âge parfait, on a dit que c'était 30 ans. Il devait, donc, par ses miracles, montrer sa divinité de telle manière que l'on crut à la réalité de son humanité. Donc il a fallu qu'il ait le droit devant le peuple juif, lui juif d'enseigner, donc il a attendu pour cela d'avoir 30 ans. J'ai déjà expliqué avec saint Thomas. Alors, les miracles du Christ, demande saint Thomas, ont-ils suffisamment montré sa divinité? Alors, saint Thomas répond affirmativement. Les œuvres que mon Père m'a données à faire, dit saint Jean, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc les miracles du Christ étaient suffisants pour manifester sa divinité. Bon. Et ceci selon trois points de vue. D'abord, dit-il, en raison de la nature spécifique de ses œuvres, qui dépassait la puissance de toute vertu créée et par conséquent ne pouvait être accomplie que par la vertu divine. Que disait l'aveugle-né après sa guérison en Saint Jean chapitre 9, on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si celui-ci ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Deuxièmement, à cause de la façon d'accomplir ces miracles, en ce sens que Jésus les accomplissait comme par son propre pouvoir, sans prier comme les autres. C'est-à-dire, il ne demande pas son pouvoir à quelqu'un, il a ce pouvoir en lui-même. Enfin, dernier motif, en raison de la doctrine par laquelle il se disait Dieu, s'il n'avait pas été vrai, il n'aurait pas été confirmé par des miracles dus à la seule puissance divine. Les miracles sont donc une preuve formelle de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a prouvé sa divinité, pas simplement d'ailleurs par les miracles, mais aussi en remplissant toutes les prophéties de l'Ancien Testament, n'oublions pas. Alors, à la fin de l'article, saint Thomas précise, puisque faire des miracles par sa propre puissance appartient à Dieu seul, le fait que le Christ a accompli par sa propre puissance n'importe quel miracle montre suffisamment qu'il est Dieu. Alors nous verrons la prochaine fois la question 44, commencerons la question 44 sur les différents miracles, catégories de miracles du Christ. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils, saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.